Chers frères et sœurs, je vous invite à écouter la lecture de la Bible. La prédication de ce culte sera consacrée à la demande du Notre Père « Ne nous soumets pas à la tentation ». En écho à cette demande, le pasteur Gilles Castelnau et moi-même avons retenu ensemble deux lectures. Tout d'abord, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme, près de l'eau. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie. Parce qu'il est le berger d'Israël, même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Éternel, tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Éternel, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Puis dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 13 à 15, un extrait de ce long chapitre où Jésus prie Dieu pour ses disciples. Père, maintenant, je vais à toi et je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter le cantique 217, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième strophe de ce cantique numéro 217. Chers frères et sœurs, je vous invite au recueillement avec une prière qui est une paraphrase du Notre Père. Seigneur Dieu, toi qui es pour nous mère, père et ami, puisses-tu être connu et respecté des hommes comme l'auteur de la vie et l'ennemi de toute mort. Que ta création devienne enfin conforme à ce que tu veux pour elle depuis l'aube des temps. Donne-nous le pain, la force et l'espérance dont nous avons besoin pour le jour qui vient. Et comme tu pardonnes nos faiblesses et nos fautes, accorde-nous et l'envie et la force du pardon et de la bienveillance. Retiens-nous et soutiens-nous lorsque nous nous éloignons de l'amour et de la vérité, de ta volonté et de nos frères. Garde-nous de la méchanceté et du désespoir. Et à la fin du temps, ta paix, ta force et ton amour régneront sur tout l'univers. Oui, vraiment. Chers frères et sœurs, nous aimerions dans cette prédication à deux voix, celle du pasteur Castelnau tout à l'heure et la mienne, consacrer notre réflexion à cette demande du Notre Père où nous disons à Dieu « Ne nous soumets pas à la tentation ». On trouve cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et dans celui de Luc au chapitre 11, mais le Notre Père ne se trouve pas dans l'évangile de Marc ou dans celui de Jean. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est la traduction officielle œcuménique retenue depuis plusieurs années par toutes les églises chrétiennes de l'espace francophone. Eh bien, nous aimerions, Gilles Castelnau et moi-même, interroger cette traduction et nous interroger à son sujet. D'abord, signalons que le verbe grec traduit par « soumettre », « ne nous soumet pas », signifie littéralement « introduire dans », ne nous introduit pas dans la tentation. Aucun dictionnaire classique, par exemple le fameux Bailly, ni aucune traduction, sauf à ma connaissance en français, celle dite du centenaire, n'utilise ce verbe « soumettre » pour rendre le grec. Je ne sais pas très bien pourquoi la traduction œcuménique de ce verset, comme cette Bible du centenaire, ont choisi ce mot-là. L'ancienne traduction, un peu vieillie aujourd'hui, ne nous induit pas dans la tentation, était rigoureusement exacte. Par conséquent, si on demande à Dieu de ne pas nous introduire dans la tentation, c'est que c'est Dieu qui parfois nous tente. Là est la question et là est le problème. La traduction œcuménique de la Bible, la Tob, comporte pour ce verset, pour cette demande, une note qui déclare qu'ici, comme souvent dans le Nouveau Testament, il s'agit de l'épreuve. Le mot « tentation » est plus large en grec et signifie aussi l'épreuve. L'épreuve dans laquelle, et je cite cette note, « Satan cherche à perdre celui que cette épreuve atteint ». Et elle précise « Aussi ne dit-on jamais dans le Nouveau Testament que Dieu tente ». Et il est assez intéressant de voir que cette traduction œcuménique de la Bible, faite longtemps après cette version œcuménique du Notre Père, estime que cette version œcuménique du Notre Père est discutable. Et dans un développement long et alambiqué, où l'on ménage, c'est normal, comme souvent dans les textes œcuméniques, la chèvre et le chou, où l'on retire d'une main ce que l'on a donné de l'autre, cette note affirme « Rien cependant n'échappe à la souveraineté de Dieu. » Rien donc, même pas la tentation. Où commence et où finit cette souveraineté de Dieu ? Nous aimons bien ici chanter le cantique du recueil Louanges et prières 278, et nous en faisons chanter la première, la deuxième et la quatrième strophe. Vous le connaissez, la foi renverse devant nous les plus fortes murailles. Mais nous sautons soigneusement la troisième strophe, parce qu'il est dit dans cette troisième strophe, et jamais les tempêtes sans la volonté du Sauveur n'éclate sur nos têtes. Par conséquent, les malheurs, les morts, les deuils, les catastrophes, les horreurs qui marquent ce monde ou notre existence se produisent avec la volonté du Sauveur. Eh bien, le pasteur Gilles Castelnau et moi-même ne faisons jamais chanter cette strophe parce que nous ne croyons pas cela. Dans la mesure où le Notre Père est devenu en quelque sorte une confession de foi commune de tout le christianisme, il est intéressant de voir ce que des réformateurs ont dit au sujet de cette demande. Luther a publié deux catéchismes, le petit catéchisme et le grand catéchisme, d'ailleurs la même année, et dans le petit catéchisme, après avoir traduit « Ne nous induis pas en tentation », il écrit « Certes Dieu ne tente personne, mais dans cette prière nous lui demandons de nous garder et de nous soutenir, de peur que le diable, le monde et notre chair ne nous trompent et nous fassent tomber. » Luther s'éloigne donc considérablement de la littéralité du texte qu'il vient pourtant de traduire. Calvin, eh bien Calvin lui aussi, qui passe pourtant pour très fondamentaliste, il estime d'abord, et il a probablement raison, qu'il faudrait tenir d'un seul tenant et considérer comme une seule demande les deux parties de ce verset, à savoir « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et il écrit qu'on doit comprendre le texte ainsi « Afin que nous ne soyons pas induits en tentation, délivre-nous du mal. » Et lui aussi parle ici, non pas de Dieu, mais je le cite, « des machinations de Satan ». Il estime en quelque sorte qu'il est illogique de dire à Dieu « délivre-nous du mal » si on vient de lui dire que c'est lui qui nous y introduit. Vous voyez qu'il s'éloigne et prend des libertés par rapport à ce texte. Personnellement, je suis en total accord avec un autre texte de la Bible bien connu dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1er, où l'auteur écrit « Quand quelqu'un est tenté, il ne doit pas dire « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Calvin cite à propos de la demande de notre Père ce passage-là de Jacques, et comme Calvin estime qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible, qu'elle est cohérente, il va projeter ce texte de Jacques sur sa compréhension du Notre Père. Mes chers frères et sœurs, si on prend ce texte au pied de la lettre et que nous disons bien à Dieu, ne nous introduis pas dans la tentation. Donc si on est beaucoup plus fidèle au texte que Luther et Calvin ne le sont, comment le comprendre? Il y a deux solutions. La première, qui est d'ailleurs indiquée dans la note de la traduction œcuménique de la Bible, dit qu'il s'agit là d'un sémitisme, c'est-à-dire qu'il y a derrière le grec une expression et une manière de dire hébraïque concernant ce qu'on appelle les verbes factitifs, c'est-à-dire où on demande à Dieu « fais faire » ou « ne fais pas faire ». Et donc, la traduction « ne nous fait pas entrer dans la tentation » serait inexact et il faudrait entendre « fait que nous n'entrions pas dans la tentation ». Mais chose surprenante, c'est que Luc, comme je vous l'ai dit, utilise exactement la même expression que Matthieu. Or Luc, jamais, n'est marqué par des sémitismes. Il écrit un grec très classique. Il ne connaît pas l'évangile de Matthieu, il vit en Grèce, et il dit bien, ne nous introduis pas dans la tentation. Chouraki, ce théologien juif contemporain, qui a traduit toute la Bible, y compris le Nouveau Testament, et qui devrait être le premier, aux premières loges, pour voir dans cette traduction un sémitisme, il est juif. Eh bien, pas du tout. Chouraki traduit « ne nous fait pas pénétrer dans l'épreuve ». Je pense que cette proposition de solution est fragile et qu'elle est à écarter. Deuxième solution, il faut honnêtement et simplement reconnaître qu'il y a dans la Bible, comme ici, dans le Notre Père, et là, dans Jacques, qu'il y a dans la Bible, mais le plus souvent dans l'Ancien Testament, des textes où on nous dit que Dieu nous tente, et des textes où on nous dit que c'est le diable qui nous tente. Personnalisé ou non, Dieu et le diable, peu importe. Par conséquent, la Bible n'est pas monolithique, elle n'est pas monocolore. Elle comporte des oppositions, elle comporte des traductions, elle comporte des interprétations et des contradictions. Et la Bible ne peut pas être reçue comme d'une cohérence parfaite. Elle nous propose plusieurs images différentes de Dieu. Je voudrais donner un exemple typique de cela. Dans le deuxième livre de Samuel, qui est dans la Bible, au chapitre 24, on nous rapporte l'événement suivant. David contre la volonté de Dieu. veut faire un recensement du peuple. Mais ce geste paraît prétentieux, orgueilleux, et Dieu s'y oppose. Et le texte dit au verset 1er du chapitre 24, « La colère de l'Éternel excita David en disant, « Va, fais le recensement d'Israël et de Jacob. » Et puis ensuite une peste épouvantable pour tout le peuple, comme punition. Quelques années plus tard, un autre auteur de l'Ancien Testament, c'est le premier livre des Chroniques au chapitre 21, raconte le même événement, le même. Et il écrit au verset 1er, « Satan excita David à faire le recensement d'Israël. » Donc vous voyez que choqué par l'idée que c'est Dieu qui tente David, il remplace ici Dieu par Satan. Voici une interprétation. Je pense que le Notre Père est devenu un texte liturgique, qu'il appartient à nos cultes depuis des siècles et des siècles. En quelque sorte, il sort de son cadre strictement biblique et ne lui appartient plus exclusivement. Il en va de même des psaumes que nous chantons dans le psautier français. Ces psaumes ont été traduits à la Réforme en France par Clément Marot et Théodore de Bèze, principalement, mais comme le souligne Edith Weber elle-même, ils ne sont pas des traductions. Ils sont des paraphrases, souvent très libres et je dirais même approximatives, voire fautives. Donc je propose aussi pour le Notre Père une paraphrase plutôt qu'une traduction scandaleuse et j'aime assez qu'on dise à Dieu « Ne nous abandonne pas dans la tentation » parce qu'il y a là une assonance. Donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses, ne nous abandonne pas à la tentation. Et bien sûr, ce texte nous rapproche du récit de Gethsémané où Jésus dit à ses disciples au jardin des Oliviers, « Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. » Encore un exemple, le recueil « Nos cœurs te chantent », le recueil de cantiques, plus récent que le louange et prière et souvent utilisé dans nos églises, comporte des textes pour le culte, pas seulement des chants, et c'est le cas toujours de nos recueils de cantiques, des textes. Et bien sûr, il y a là le Notre Père dans sa version écuménique, officielle, avec « Ne nous soumets pas à la tentation ». Mais dans ce même recueil, il y a deux versions différentes chantées, mises en musique du Notre Père. Et on dit tout autre chose dans ce même recueil, à savoir, je cite, « Garde-nous de la tentation ou garde-nous des tentations ». Ma conviction profonde, peut-être la partagez-vous, c'est que, comme l'affirme l'épître de Jacques, Dieu ne tente personne. Et même si elle est officielle ou écuménique, cette traduction, j'estime qu'il ne faut pas l'utiliser. Imaginons que quelqu'un vienne pour la première fois à un culte ou qu'un noble douteur y participe. Et il entend une assemblée unanime, recueillie, dire d'une seule et même voix à Dieu, ne nous introduis pas dans la tentation. Je pense qu'il serait, s'il fait attention à ce que l'on dit, profondément choqué, indigné, scandalisé, et qu'il dirait, je ne veux pas de ce christianisme-là, je ne veux pas de cette religion. Je ne veux pas de ce Dieu-là qui est un tentateur, un Dieu sournois, trompeur et presque perfide. Et il déciderait de ne plus mettre les pieds dans une église. Et je dois vous dire que je serai, écoutez bien le mot que j'utilise, tenté de faire comme lui. Amen.
Frères et sœurs, le professeur Laurent Gagnebin a tout à fait raison. Son étude du texte est remarquable. Laurent, je ne te contredirai certainement pas sur cette idée de Dieu et du Notre Père. Faire entrer dans la tentation, soumettre à la tentation, introduire à la tentation, il est vrai que quelqu'un qui entrerait ici pour la première fois, c'est peut-être le cas de certains, mais Laurent a dit que tout le monde n'écoutait pas, c'est peut-être ça le salut. Quelqu'un qui entrerait dans ce temple pour la dernière fois, c'est le cas de certains aussi, risquerait effectivement de penser que cette idée de Dieu est inacceptable. Je pense, vous le pensez aussi, que bien des gens n'adhèrent pas vraiment à ce que disent les pasteurs ou les prêtres. D'ailleurs, les pasteurs et les prêtres souvent disent « Nous disons ceci, nous lisons cela, mais il faut comprendre autrement. » Quand nous disons le jour de l'ascension « Jésus est monté au ciel », nous disons en même temps « Mais ne croyez pas que Jésus est monté au ciel. » Il est vrai que le Notre Père est source de dérives théologiques. J'ajouterai que le Notre Père tout entier est source de dérives théologiques. Lorsqu'on commence en disant « Notre Père qui est aux cieux », n'y a-t-il pas dans notre inconscient la phrase qui arrive du symbole des apôtres, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Et l'idée alors de ce Dieu Tout-Puissant demeurant au ciel, faisant ce qu'il veut, exauçant les prières ou ne les exauçant pas, sans que vraiment on comprenne quelles sont ses motivations. On dit alors, c'est un mystère, c'est pour le bien. Ce Dieu-là, inquiétant, menaçant peut-être, lorsque nous succombons à la tentation. Et cette idée de Dieu tout-puissant qui fait arriver les tsunamis, les cyclones, fait verser les autocars dans les ravins, fait mourir une mère de 5 enfants d'un cancer, malgré les prières de ses fidèles. Ce Dieu-là, dont la pensée est introduite par les premiers mots, « Notre Père qui est aux cieux », sont encore accentués par les derniers mots, « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et la personne qui entre au temple pour la première fois et qui écoute, dirait, mais enfin, c'est un despote oriental qu'il faudrait essayer d'apprivoiser, de séduire en le flattant peut-être. Alors s'il nous soumet à la tentation, puis, comme un comptable du trésor méticuleux, relève tous nos manquements, va-t-il ensuite, dans son règne, sa puissance et sa gloire, nous en punir, nous en châtier? Et vous savez peut-être que, sans doute sous l'influence de l'islam, mais aussi des évangéliques, la notion de l'enfer revient. D'ailleurs, le reste du Notre Père aussi, dans cette ambiance, peut nous induire en erreur. Lorsqu'on dit « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », c'est lui, n'est-ce pas, qui est tout puissant. C'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alors nous polluons, nous boursicotons, nous faisons effondrer les prix des matières premières, nous déstabilisons l'économie, nous envoyons dans l'angoisse et dans la misère des quantités de nos contemporains, mais que sa volonté soit faite, nous observons les choses. C'est très faux, c'est très mauvais. Lorsqu'on dit aussi « donne-nous notre pain quotidien », mais nous faisons subventionner notre agriculture, cela réduit à la faillite des agriculteurs africains ou d'Amérique latine, mais que Dieu leur donne leur pain à eux, nous mangeons. Je comprends quelqu'un qui disait, ça n'était pas à propos du Notre Père, c'était à propos du symbole des apôtres. Mais je pense que la réaction pourrait être la même. Quand le pasteur nous fait lever et nous fait dire tous d'une même voix le symbole des apôtres, moi, je croise les doigts derrière mon dos pour conjurer le mauvais sort qui s'acharne sur ceux qui mentent dans une église. Alors vous me direz, le professeur Gagnebin l'a dit, pourtant le texte est là. La parole de Jésus est là. Comment répéter la parole de Jésus? Laurent Gagnebin disait, on ne peut pas, on ne doit pas répéter cette parole-là. Surtout quand notre sacristain fait sonner les cloches, à juste titre, de façon que dans tout le quartier, ces paroles portées par les cloches résonnent. Les paroles de Jésus dans les évangiles sont-elles des paroles sacrées? Ou peut-on les remplacer par des paraphrases? C'est là que j'ai un problème avec ce que dit mon collègue Laurent Gagnebin. Je pense comme lui que ces paroles ne sont pas sacrées, que nous pouvons les remplacer par des paraphrases parce que nous ne prenons pas la lecture de la Bible à la lettre. Nous ne sommes pas fondamentalistes. C'est l'esprit de Jésus qui nous anime. C'est l'esprit de Dieu que Jésus nous faisait connaître, dont il rayonnait, qui nous anime. C'est son dynamisme créateur, c'est son esprit de paix, c'est son esprit de fraternité qui nous anime. Ce ne sont pas, à la lettre, les paroles qu'il a dites, mais cet esprit qu'elles transmettent, c'est cette présence de Dieu en nous, Saint-Esprit, qui monte en nous. C'est lui qui compte. Et d'autres paroles de Jésus, nous ne les prenons pas à la lettre. Lorsque Jésus disait « Le Père me donnerait 12 légions d'anges » pour le défendre de la légion romaine, vous ne croyez pas qu'il y a des légions d'anges qui peuvent venir lutter contre les légions romaines. Lorsque Jésus disait « Je viens bientôt », vous voyez bien qu'il s'est trompé. Lorsque Jésus disait « Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. » Vous savez bien que cela ne se produit pas. D'ailleurs, choisir des paraphrases, on le fait dans les psaumes, comme cela vient d'être dit. Mais la tradition catholique d'autrefois, qui était de dire « ne nous laissez pas succomber à la tentation », qui est plus compréhensible que celle du texte, a été utilisée, c'était déjà une paraphrase. Je partage donc les critiques qui me semblent parfaitement justifiées de Laurent Gagnebin. Mais, et c'est là le point de notre désaccord, je pense qu'il faut néanmoins dire le Notre Père tel qu'il est dans la version œcuménique de la Bible de 1965. J'étais pasteur en 1965 lorsque, au moment du Concile de Vatican II, l'ouverture s'est faite de l'Église catholique vers nous. Je me souviens de la première fois où je suis entré dans une église catholique à la messe, ce que je n'avais jamais fait de ma vie, et où je suis allé au micro pour prêcher. Expérience fantastique que les plus âgés d'entre nous ont vécue. Ce qui fait que lorsque maintenant, catholiques, orthodoxes et protestants, de tous les pays francophones du monde, singulièrement de France et de Suisse, nous disons la prière du Seigneur avec les mêmes mots dans toutes les églises, à Saint-Roch, à Saint... toutes les églises, je pense que cela est précieux et qu'il ne faut certainement pas l'abandonner. Je pense aussi que le Notre Père, tel que l'évangile de Matthieu et de Luc, nous l'ont transmis. Cela fait maintenant 2000 ans qu'on le dit à travers les siècles, dans tous les continents, dans toutes les églises, des orthodoxes les plus traditionnels jusqu'aux évangéliques les plus charismatiques. Tout le monde le dit, et beaucoup mieux que le credo, que franchement je vais laisser de côté à cause de ce monsieur qui se croisait les doigts dans le dos en le disant. À part un credo, le Notre Père me semble être l'un des jalons qui balise le chemin de notre christianisme depuis 2000 ans. Il y a d'autres jalons, il y a le baptême. Toutes les églises, dans tous les continents, depuis 2000 ans, ont toujours mis de l'eau sur la tête de quelqu'un en disant « je te baptise ». On nous fait lever à ce moment-là pour être témoin de ce baptême. N'importe qui, de n'importe quelle église, reconnaît là un des symboles, un des jalons, un des drapeaux du christianisme. Aucune autre religion ne fait ce geste. Il y a le Notre Père, il y a le baptême, il y a la Sainte Cène. Nous donnons des sens très différents à la Sainte Cène suivant les églises, suivant les siècles, suivant la théologie de l'un ou de l'autre. Néanmoins, depuis 2000 ans, nous prenons du pain, nous le rompons au nom de Jésus-Christ, du vin aussi, et nous accomplissons tous ce geste. Alors, je sais que si vous allez en Nouvelle-Calédonie, vous vous apercevrez qu'on communie avec des ignames et du jus de coco. Bon, ça surprend un peu. Tout le monde n'approuve pas. Néanmoins, la Sainte Cène est aussi un de ces jalons qui marquent notre identité chrétienne. Le dernier jalon, c'est cette Bible ouverte. Dans les églises chrétiennes, dans toutes les églises depuis 2000 ans, on lit toujours la Bible, un passage. On l'interprète de façon incroyablement diverse, selon les théologies, selon les églises, selon la personnalité de tel ou tel prêtre ou pasteur. Pourtant, on lit la Bible. On ne lit jamais un autre livre que la Bible dans le culte public. Le Notre Père, le baptême, la scène, la Bible sont ces points d'ancrage qui font que toujours on reconnaît que là, nous sommes chrétiens. La prédication peut être extrêmement variée, elle l'est. La compréhension des pasteurs et des prêtres est très diverse. Néanmoins, les fidèles qui viennent écouter s'y reconnaissent à cause de ces quatre jalons. La récitation commune du Notre Père, telle qu'il est, dans sa formulation œcuménique, toute discutable et critiquable soit-elle, la Sainte Cène, le baptême, font que, dans cette chair, au temps de Louis XIV, où ce que l'on prêchait ici nous semble extrêmement discutable, lorsque Louis XIII venait faire ses démotions et que Bossuet prêchait ici, je frémis en pensant à ce qu'on y disait. Et pourtant, il disait dans cette chair le Notre Père. Le christianisme est continuellement à réinventer. Parce que le christianisme, la religion du souffle créateur de Dieu, de son dynamisme créateur, est toujours nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si vous dites la même chose que vos parents, c'est que vous n'avez pas compris que c'est une bonne nouvelle. Et nous devons avoir les yeux qui brillent lorsque nous réinventons la religion de Jésus-Christ. Mais tout ce que vous réinventerez ne sera jamais que toujours le christianisme, avec ses jalons. Alors les questions constamment posées par le Notre Père, Calvin, Luther, vous et moi peut-être aujourd'hui, sont la preuve que nous réinventons toujours. Et ce sermon que nous faisons, eh bien la preuve que toujours du nouveau est à découvrir. Néanmoins, je pense qu'il faut le dire comme tous les fidèles ont décidé de le dire, sauf Laurent Gagnebin. Mais pour lui donner acte qu'il a raison, je dirai comme prière d'intercession une transcription actualisée, une paraphrase du Notre Père. Et quand je la dirai, vous comprendrez qu'il a raison. Mais ensuite, quand notre sacristain fera sonner les cloches, je dirai la traduction œcuménique de 1965. Et vous penserez ce que vous croirez devoir penser, et ce sera bien. Amen.